Je préfère ne plus être là que de passer mon temps mais dans un lit dans la trans souffrance. Je préfère être endormi progressivement.
L'équipe est très importante, le médecin, tout, toute l'équipe. Quand on a un cas dur et qu'on peut en discuter et qu'on peut lâcher, on peut avoir une larme qu'on n'a pas eue avec la patiente parce que voilà quoi.
Bonjour à tous. Après 4 mois d'une vaste consultation, les états généraux de bioéthique ont pris fin. Dans les prochains jours, un rapport doit être remis aux parlementaires en vue de la révision de la loi actuelle. Elle date de 2011. Même si les débats ont été accaparés par la PMA, la procréation médicalement assistée, d'autres questions tout aussi sensibles ont été abordées, comme la fin de vie. En France, la loi originelle pour aider à mieux mourir remonte à 2005, portée par Jean Leonetti. 11 ans après, cet élu de droite s'associe à un député de gauche pour faire adopter un nouveau texte. Ni statu quo, ni euthanasie, cette loi instaure de nouveaux droits, comme celui de mettre le patient au cœur de sa décision avec les directives anticipées. Ce document est là pour faire respecter la décision du malade pour sa fin de vie. Pour Interception, Bichène Thévrignon a pu suivre le quotidien de l'unité de soins palliatifs de Bayeul. C'est un endroit où ces questions sont particulièrement délicates, car c'est ici qu'officiait le docteur Bonnemaison. L'urgentiste a été condamné en 2015 à 2 ans de prison avec sursis pour avoir donné volontairement la mort à une patiente en fin de vie. Cette affaire a soulevé l'éternelle question de la frontière si ténue entre la froideur d'une loi et l'humanité attendue de son application. De la fin de vie à la bonne mort, c'est un reportage de Bichène Thévrignon.
Interception, le magazine de reportage de France Inter.
Bonjour. Je m'attache. Docteur Briaxis, où est-ce qu'on va là?
Alors, on va se rendre à la benne, au domicile d'un patient qui se trouve chez lui depuis maintenant bien 3 ans. C'est vrai qu'il sort très très peu. Il est très limité par sa capacité respiratoire. Donc on verra tout à l'heure qu'il est sous oxygène, qu'il a une machine qu'il utilise essentiellement la nuit. C'est vrai qu'il est essoufflé au moindre effort et que de lui-même il a un peu, enfin oui, il a franchement même restreint ses activités au point qu'il ne sort plus de chez lui. Allez. Je suis Pierre Briaxis, je suis médecin. Médecin en équipe mobile de soins palliatifs depuis une 20aine d'années.
Appel envoyé. Vous pouvez entrer.
Bonjour. Bienvenue.
Bonjour madame.
Bonjour monsieur.
Bichène Thévrignon.
Enchanté.
Bien. Vous faire déjeuner?
Oui.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Ce qu'il ne faut pas faire. Mais
asseyez-vous.
Non, il y a...
D'abord donc il y a l'éveil où j'enlève mon masque de la VNI, et je prends mes lunettes penchées sur une bouteille d'oxygène. Et là, bon, il nous faut un petit moment, parce que c'est pas la même façon de respirer. Et puis il faut que j'ouvre un œil, que je me dis, ouais, super, je suis encore là. Je suis très content.
Alors après, en termes de volonté, moi j'ai retenu que vous ne souhaitez pas un maintien en réanimation sur une durée prolongée. Vous acceptez un éventuel transfert en réanimation si votre état le nécessite pour pouvoir essayer de traiter une complication réversible du style une infection pulmonaire. Ça réactive des choses?
Non, c'est que ça m'essouffle.
Ça vous essouffle? Ok. Ça vous va là si je lis?
Oui, bien sûr.
Ok. Donc je lis le contenu de vos directives anticipées que vous avez rédigées en mars 2015. En cas de détresse respiratoire, vécue comme insupportable par moi-même, je suis favorable à une sédation suffisante pour me protéger de la perception de la détresse. C'est bien ça?
Tout à fait, oui.
je suis favorable à une assistance respiratoire par ventilation non invasive ou intubation, associée si besoin à un séjour en réanimation de courte durée. Et vous avez rajouté entre parenthèses 1 à 2 semaines.
Voilà, oui, il fallait s'entendre sur le terme courte durée.
Je suis conscient que le sevrage de l'assistance respiratoire est peu probable. Mais je refuse la dépendance à une assistance respiratoire mécanique, entre parenthèses trachéotomie, prolongée.
Qu'est-ce qui vous a poussé à rédiger ces directives ? À quel moment vous avez senti la nécessité de les rédiger ?
Étant plus jeune, j'avais vu un ami à mon grand-père qui était sous trachéotomie, donc à l'hôpital. Et ça m'avait choqué, mais de voir ce tuyau qui était en fer à l'époque. Je dis ça, je ne veux jamais, jamais, jamais. Et depuis ce jour-là, c'est ancré dans ma tête, je ne veux donc pas de trachéotomie. Oh, ça m'a toujours horrifié.
Du coup, vous en êtes venu à ces directives anticipées. En fait, quand vous avez été très malade, c'est ça, on n'y pense pas avant.
Ah oui, on n'y pense pas avant. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens ne le font pas faire, parce qu'ils les font quand ils sont au pied du mur, qu'il faut... Et encore, c'est pas sûr qu'ils le fassent tous.
Vous l'avez rédigé plusieurs fois, 3 fois, je crois que vous disiez tout à l'heure.
Oui.
Pourquoi ?
Pour changer quelques mots qui n'étaient pas exactement ce que je voulais.
Le cadre légal tel qu'il est en France aujourd'hui, il vous convient ?
Mais je ne sais pas lequel il est actuellement, mais je ne sais pas si l'euthanasie est autorisée, mais je ne crois pas.
Non, elle est interdite en France.
Elle est interdite, tandis que, bon, il y a moyen de détourner le mot en employant peut-être des... Je vois ma femme qui n'a pas l'air d'accord. On peut toujours détourner ce mot d'euthanasie qui fait peur en appliquant d'autres façons. Par exemple, comme ces directives anticipées que j'ai voulu comme ça. C'est une manière de parler d'euthanasie, quoi. Je ne vais pas mentir, puisque je suis comme tout le monde, j'ai peur de parler de la mort, de parler. Et donc j'en ai assez sur la tête avec la mienne, qui se rapproche comme tout le monde. Hein, mais je crois que je vais gagner.
Docteur Briaxis, vous prenez énormément de temps pour discuter avec les patients, alors que ben justement les mouvements ces derniers temps dans le milieu hospitalier, dans le milieu de la santé, c'est de dire on n'a plus assez de temps pour s'occuper des gens. Vous, là, vous prenez vraiment du temps.
C'est élémentaire pour pouvoir évaluer un peu la situation de la personne, prendre le temps de l'écouter, qu'elle puisse elle-même se raconter. Elle est dans son histoire de vie, dans son histoire de personne malade. Et si on veut pouvoir en dire quelque chose, le minimum, c'est de prendre un peu de temps. Hein. Les patients sont sensibles à ça. Hein, et bon, des personnes nous font le retour parfois qu'elles ne nous demandent pas forcément de miracles, mais que c'est vraiment important pour elles de se sentir entendues et comprises. On ne pourrait pas, je pense, être dans une approche comme ça sans accorder... un temps soit peu de temps à la personne malade.
Dans les personnes qu'on a rencontrées avec vous, il y a une question qui revient très souvent, c'est qu'est-ce que vous voulez, vous ? C'est pourtant des personnes que vous connaissez bien, vous les avez déjà rencontrées à plusieurs reprises, mais vous avez toujours cette question, parfois 2-3 fois au cours de l'entretien, qu'est-ce que vous voulez, vous ? Pourquoi vous êtes si insistant là-dessus ?
Mais parfois, des familles ou même des patients parlent de la bonne mort, mais c'est quoi la bonne mort ? Donc, pour savoir, pour la personne, voilà, quelle est sa représentation de la bonne mort ou de la bonne fin de vie, hein, parce que je crois que c'est plutôt comme ça que c'est présenté par les patients le plus souvent, il faut leur donner la parole et puis essayer de leur donner cette possibilité de nous dire qu'est-ce qui est important pour eux. Et pour ça, les questions, elles sont simples. Hein. C'est effectivement, qu'est-ce qui est important pour vous dans cette période-là on n'hésite pas effectivement à poser la question assez directement. Oui.
Ça change tout le temps. On a rencontré une personne avec vous qui vous a dit il y a quelques mois ou années, moi je supporterai pas de pas être autonome. Et là, il peut à peine faire trois pas, il est intubé, il est essoufflé au moindre effort et il veut continuer.
Oui, parce que tout ça, c'est pas forcément figé. Hein. Les projets peuvent changer, une décision même ou un projet de soins. C'est pour ça qu'on dit un projet de soins, il doit être personnalisé et réévalué. Il n'est pas forcément figé dans le temps. Il y a un cheminement, il y a un parcours. Il y a des personnes qui restent très figées. Hein, et puis, il y a des personnes qui peuvent aussi changer de projet, qui peuvent exprimer des attentes différentes en fonction de ce qui se présente, en fonction du temps aussi. Donc, effectivement, tout ça, ça s'intègre dans une notion de temps. Ouais. Alors après, qu'est-ce qu'on entend par soulagement, hein? Parce que si on veut soulager toute souffrance, zéro douleur, zéro angoisse, eh ben, il faudrait endormir tout le monde. Donc après, il faut qu'on précise les choses, hein, quand on parle de soulagement. La dernière loi donne le droit à être soulagé du meilleur apaisement possible, hein, donc des termes quand même assez forts. Alors comment on s'y prend, qu'est-ce qu'on utilise et jusqu'où cette recherche de soulagement? Avec la question quand même de la sédation, hein, qui est souvent évoquée, sédation légère pour détresse, sédation profonde et continue avec ce nouveau droit depuis février 2016. Mais tout ça, ça va être à préciser avec les personnes malades, avec les équipes, avec les proches aussi.
Interception sur France Inter.
L'hôpital de Bayonne, c'est un grand bâtiment en briques du 19e siècle. Il a été totalement rénové. Mais le centre des soins palliatifs est situé, lui, dans un petit bâtiment à l'écart, derrière les parkings du personnel, coincé entre la voie ferrée et un lycée professionnel, dans les locaux de l'ancienne école d'infirmières. Un local un peu démodé, on a plutôt le sentiment d'une MJC. Mais l'équipe des soins palliatifs explique qu'elle a besoin de cette discrétion. Bonjour.
Bonjour.
C'est ici que j'avais rendez-vous.
Oui. Je suis docteur Anne Cadier, je suis médecin sur l'équipe mobile de soins palliatifs de l'hôpital de Bayonne.
C'est juste l'inverse de ce pourquoi vous avez été formé. Vous étiez formé à sauver des vies à la base.
Ah bah oui, en médecine, on est des sauveurs. On est formé pour ça, pour guérir. On est formaté. Nos cours, on apprend les traitements, les chirurgies. On n'apprend jamais à accompagner les gens dans la mort alors qu'on y va tous.
Et vous disiez, c'est difficile même pour certains médecins.
Ouais, parce que c'est tabou. Je crois que c'est tabou. C'est tabou dans la société, je pense quand même. Hein. On cache nos morts et dans notre formation aussi. Et c'est un échec. C'est vécu comme un échec. Quand le patient meurt, c'est un échec. Alors que pas toujours, que c'est l'évolution des maladies aussi et qu'on est là aussi pour ça, quoi, pour les accompagner là-dedans.
Les directives anticipées, c'est quoi?
C'est un document qui permet de dire ce qu'on ne veut pas.
Ça a l'air très simple. Pas d'acharnement thérapeutique. Je veux pas que vous me réanimiez. Je veux pas que être sous respiration artificielle.
Oui. Ça a l'air très clair sur le papier, mais je pense que ça l'est surtout pas, surtout quand on n'est pas malade. Parce qu'on ne peut pas savoir, ni vous ni moi aujourd'hui, ce qu'on voudra le jour où on est au pied du mur. Et on voit les gens changer d'avis, parce que je pense qu'on a aussi un espèce d'instinct qui nous fait quand même toujours avoir l'envie de vivre. Hein, on est des animaux. Voilà, pas si simple que ça. Alors pour moi, c'est vraiment un outil hyper intéressant chez les gens malades, chez les gens dont on sait, les gens qui sont par exemple dialysés, les gens qui ont une sclérose latérale amyotrophique, une maladie de Charcot. On sait comment va évoluer la maladie, donc c'est très important de savoir ce qu'ils veulent et on peut prévoir un peu ce qui va se passer. On sait que les gens à un moment ne vont plus pouvoir s'exprimer, donc c'est important de savoir ce qu'ils veulent. Après, les gens bien portants, enfin moi je trouve compliqué, hein, personnellement, je suis incapable de dire. Là, je dis évidemment, j'ai pas envie de vivre comme par exemple Vincent Lambert, comme d'autres patients qu'on voit dans un fauteuil roulant, avec les bras et les jambes en moins. Mais en fin de compte, le jour J, je sais pas ce que je voudrais. Enfin, j'ai beaucoup de mal à être sûre. Et moi, en tant que médecin, si le patient arrive, même s'il a écrit des directives anticipées, eh ben j'avoue que j'ai le doute. Est-ce que vraiment, au jour d'aujourd'hui, quand il est dans la situation, est-ce qu'il veut toujours ça, ne pas être réanimé? Parce que le pas d'acharnement thérapeutique, la loi nous l'impose déjà. Il y a un peu un doublon. Hein. La loi nous interdit l'acharnement thérapeutique. Et en même temps, on demande aux patients de signer un document comme quoi ils ne veulent pas d'acharnement thérapeutique. Enfin, c'est de plus en plus évident pour tout le monde qu'on ne doit pas faire d'acharnement thérapeutique. Mais qu'est-ce qu'on met derrière le mot d'acharnement thérapeutique ?
Qu'est-ce qui fait ou comment on fait à un moment pour prendre la décision, pour dire j'arrête, soit j'arrête, soit je fais la piqûre qui, je sais, ça va mener un calmant, mais je sais que ça va aussi conduire à la mort.
Alors déjà, quand le patient peut le dire, il faut toujours se centrer sur lui et pas choisir pour lui. C'est primordial. Combien de fois on voit des médecins qui vont demander à la famille ce que veut le patient alors que le patient est capable de dire. Donc il ne faut jamais oublier que tant que le patient peut l'exprimer, c'est à lui de le dire. Et quand il ne peut pas l'exprimer, pour moi, le meilleur moyen, c'est la collégialité. C'est pas rester seul. C'est discuter, prendre son temps, parce que ce n'est pas des discussions à la légère, et être plusieurs. Partager les décisions, partager les responsabilités. Sinon, ce n'est pas possible.
On l'avait vu ensemble, on s'était dit, mais qu'est-ce qu'on fait dans cette chambre ?
Et en fait, après, je suis retournée.
L'équipe de soins palliatifs se réunit toutes les semaines dans une petite salle ronde pour une réunion de staff ou une réunion de groupe. Un temps d'échange indispensable entre les médecins, les infirmières, les psychologues et la secrétaire. Sur la table, il y a du café, du thé et des biscuits. Au mur, des cartes postales et un grand tableau blanc avec le nom des patients et leur traitement. La réunion de staff, c'est un peu de technique médicale et beaucoup, beaucoup d'échanges indispensables pour l'équipe.
Ça a été un peu dur parce qu'on a été mis sur les nispes et ça lui a été l'état de soins palliatifs de fin de. Ça lui a été un peu annoncé quand même.
Le service des soins palliatifs n'a pas de lit attribué. Il intervient à la demande d'un autre médecin, dans ce cas en maladie infectieuse. Un malade alité est suivi depuis plusieurs semaines par le docteur Pierre Briaxis. Il a eu le temps de penser à ses directives anticipées.
Je préfère ne plus être là que de passer mon temps dans un lit dans d'atroces souffrances. Je préfère être endormi progressivement.
On parle de sa propre fin de vie, c'est pas théorique quand même.
Non, c'est pas théorique. Est-ce que c'est difficile? On est au bord d'un mur en fait. Hein. Moi je veux être soulagé, donc la seule solution, ça sera ça. Parce que les médecins m'ont dit que de leur côté, ils ont bossé un max, quoi, on va dire rien. Et ils ont tout essayé. Et il n'y a plus de solution pour me soigner. Donc qu'est-ce qu'il reste? Il reste comme solution que j'ai ma fin de vie, c'est-à-dire ici, comme je suis là, à l'hôpital, si je la gère moi-même, c'est pas possible. Il faut que quelqu'un m'aide. Et si possible, sans souffrir.
C'est quelque chose que vous avez pensé déjà. Vous avez même eu l'idée de vous garder quelques médicaments à visée cardiaque de côté. Vous en avez parlé hier en présence de votre épouse. Donc l'idée, ça a été aussi à un moment de vous suicider.
Ouais.
Hein, c'est le terme qu'on peut utiliser.
Ouais.
Mais j'ai envie de dire aussi quand même que la discussion, elle n'est pas d'aujourd'hui.
Non,
il y a eu déjà plusieurs moments assez déterminants où il a fallu aussi que vous puissiez consentir ou refuser des traitements qu'on vous proposait. Jusqu'à présent, vous les avez dans l'ensemble plutôt acceptés, mais en nous disant, mais pas à n'importe quel prix.
Qu'est-ce que vous refusez ?
Mais c'est le fait de passer de la vie à la mort, c'est mais pour de bon, pas en disant je me fous en l'air. C'est quand même... Parce que j'aime la vie, mais je ne peux pas vivre non plus à n'importe quel prix. Et même pour ma famille, enfin, ma femme, et je ne peux pas faire semblant que tout aille bien, et puis quand je les vois, et puis après me dire, mais tu vas te suicider, ça sera réglé. Quoi.
Vous, ce que vous voulez, c'est être accompagné par les médecins ?
Absolument. C'est ce qu'ils font très bien.
C'est difficile pour vous d'avoir cette responsabilité, que ce soit vous qui preniez la décision et pas quelqu'un d'autre ?
Non, mais c'est sûr que c'est difficile de dire que demain c'est fini. Tout est fini, que demain je serai plus là. Mais.
Ouais, c'est ce que j'ai senti quand même aussi.
Ouais.
De pouvoir dire allez-y, c'est-à-dire si quelque part vous nous autorisez. La sédation profonde et continue, c'est quand même une forme d'aide active à mourir aussi. Hein,
oui.
Même si ce n'est pas présenté comme ça dans la loi, mais c'est quand même ça, c'est comme ça que vous le vivez aussi.
Ça veut dire quoi pour vous ces mots-là, sédation profonde et continue ?
Ah, mais vous n'avez pas suivi le cours, là. C'est tout ce qui fait l'accompagnement vers la mort.
Et vous voyez ça comment ? Vous imaginez ça comment ?
Le moment où je vais passer vers la mort. Un endormissement progressif et indolore.
Ce patient s'est endormi. Il est décédé à l'hôpital de Bayonne, quelques jours après notre interview.
Oui, on meurt mal dans notre pays. Avec la parole du mourant non entendue et la souffrance mal soulagée.
Jean Leonetti, député des Alpes-Maritimes, est le rapporteur de la loi sur la fin de vie, promulguée le 2 février 2016.
La mort est un arrachement, le deuil est une souffrance. Aucune loi n'y pourra rien changer. Mais peut-on au moins empêcher, avec les moyens médicaux et les moyens humains qui sont à notre disposition dans notre vieille et belle démocratie, empêcher la souffrance en fin de vie ? Personne ne peut dire qui est digne et qui ne l'est pas. Personne ne peut dire quelle vie mérite d'être vécue. Aucun pays n'est en avance sur l'autre et aucune législation n'est parfaite.
Voici le résultat du scrutin. Votants 553, suffrages exprimés 470, majorité absolue 236, pour 436, contre 34. L'Assemblée nationale a adopté.
Agathe Audiquet, donc je suis maître de conférence en sciences de l'éducation au département des sciences de l'éducation à l'université de Lille.
Alors Agathe Audiquet, vous avez publié un article aux éditions du Cairn sur la fin de vie, une question de responsabilité. Est-ce que vous pouvez expliquer d'abord juridiquement de quoi on parle quand on parle de la fin de vie ?
Juridiquement, on parle en fait du droit à mourir dans la dignité. Donc on parle d'un droit à la mort, ce qui n'est pas sans poser problème du point de vue juridique, puisque le droit consacre de manière suprême, alors tant au niveau national qu'international, le droit à la vie. Et donc reconnaître juridiquement un droit à la mort serait en contradiction avec l'état actuel du droit en vigueur.
En fait, on ne peut pas disposer non plus librement de son propre corps.
Non, donc ça c'est aussi un principe fondamental du droit, c'est le principe de l'indisponibilité du corps humain. Le corps est depuis très longtemps considéré comme sacré. Comme il est sacré, eh bien nul être humain à titre individuel ne saurait en disposer, d'où le principe d'indisponibilité du corps humain. Et donc on a ce principe fondamental qui va aussi empêcher cette reconnaissance d'un droit individuel à la mort.
Pourquoi on en arrive alors au XXIe siècle à la loi Leonetti ?
Pour plusieurs raisons, parce que tout d'abord, on est dans un contexte favorable à l'émergence des droits individuels, ce qu'on appelle aussi dans la doctrine les fameux droits créances, hein, j'ai droit à ceci, j'ai droit à cela. Ensuite, il y a bien entendu une réalité, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de personnes qui vivent de plus en plus longtemps, qui meurent essentiellement, donc quand j'avais fait mon article, donc j'avais relevé que 70% des personnes en fait décédées à l'hôpital. Et donc, je veux dire de manière tout à fait concrète, la question de la fin de vie va se poser et de plus en plus au regard de l'évolution démographique.
C'est-à-dire l'acharnement thérapeutique ou une obstination déraisonnable, c'est les termes de la loi. Et en même temps, on sait que les médecins, les praticiens sont tenus par la non-assistance à personne en danger. Ils n'ont pas le droit de laisser mourir une personne. Comment on concilie ces deux aspects de la loi ?
Si vous voulez, là, à ce niveau-là, le droit ne va pas donner beaucoup de réponses. Voilà, il va donner un cadre général, va dire voilà ce qui est autorisé, voilà ce qui est interdit, sachant qu'après, dans les pratiques, on va se trouver souvent dans un entre-deux. On va être confronté aussi à des sentiments humains, à des émotions. Et donc, il va falloir prendre en considération aussi tous ces aspects-là au niveau des praticiens. Et donc, finalement, on se rend compte que c'est le praticien, le soignant, qui va devoir gérer lui-même la conciliation de ces différents éléments. Et donc, ce qui le plonge souvent dans la difficulté, voire même le désarroi, et même la culpabilité. Et donc, en fait, on se rend compte que malgré le dispositif législatif réglementaire, eh bien, c'est encore une question qui est gérée par les personnes prises individuellement, dans le cadre de pratiques isolées et qui ne sont surtout pas prises en charge collectivement au niveau de la responsabilité. On est souvent dans un millefeuille de responsabilités individuelles plutôt que dans une responsabilité qui, de mon point de vue, aurait intérêt à être collective.
Dans votre article, vous dites on semble se diriger vers une dépénalisation de l'euthanasie passive. C'est un peu ça la voie de sortie ?
Oui, je pense qu'on est plutôt dans cette approche-là au niveau de la France. Voilà, parce que la France, qui est très fortement marquée par les croyances, les dogmes, en tout cas je parle là dans son droit, qui est fortement imprégné, de valeurs humanistes, qui fait que on avance aussi lentement, et j'ai envie de dire peut-être heureusement aussi, avec beaucoup de réflexion. Mais ce qu'il faudrait avant tout, c'est quand même peut-être une implication de l'État un petit peu plus forte. D'ailleurs, Leonetti en parlait dans son rapport de 2015, justement, en insistant sur la nécessité de former le corps médical à ces questions-là, et beaucoup plus que ça ne l'est actuellement.
À l'hôpital, le patient peut être entouré de sa famille. Le service de gastro-entérologie accueille presque en permanence un lit de soins palliatifs. Le malade a alors le temps de rencontrer le médecin plusieurs fois et de préciser son projet.
Elle est en cours de progression, avec un état général qui s'est affaibli, un amaigrissement notamment.
Dans une chambre, le docteur Briaxi assure le suivi avec patience. Il dresse un état des lieux avec le malade qui vit ses derniers jours et la famille.
Alors nous, on avait été sollicités à un moment où vous étiez en demande qu'on vous endorme, très clairement. Mais il y avait aussi une demande qu'on vous aide par rapport à ça. Donc quand on s'est rencontrés, moi j'ai essayé de vous donner une information relative à vos droits. Il a besoin d'être changé de position.
Voilà.
On a le temps.
Oui.
Oui. On va le prendre le temps. Ça va comme ça ? Après, on aurait pu le contrarier parce qu'on n'a pas donné suite non plus à sa demande comme ça. Simplement, par rapport à sa volonté d'être endormi, on lui a dit que c'était possible dans un certain cadre. Et le cadre, pour une personne qui est consciente comme lui, c'est de pouvoir valider que il a une souffrance réfractaire, qu'il supporte difficilement, et dans cette souffrance il peut y avoir un inconfort physique, il peut y avoir d'autres sources de souffrance. Oui. Le deuxième point à vérifier par rapport à cette sédation profonde et continue, c'est que le pronostic vital doit être engagé à court terme, ce qui n'est pas votre cas, même s'il y a cet affaiblissement.
Qu'est-ce que vous voulez ?
Je suis à la salle, qu'on m'écoute comme il a fait.
À la fois, c'est une demande, mais c'était exprimé avec humilité aussi. C'était, c'est mon souhait, mais je ne fais pas le fier.
Après, non, jamais fait un fièvre.
Aujourd'hui, il a aussi un traitement qui est neuroleptique pour éviter les nausées, les vomissements. Et c'est plus difficile de trouver les mots quand même par rapport à la semaine dernière. Il y a l'affaiblissement, il y a probablement ce médicament.
S'il se plaît.
Je voulais remercier l'hôpital de Bayonne pour la prise en charge de mon papa. Nous sommes satisfaits que sur sa fin de vie, il ait quand même un confort, une qualité.
C'est quoi le confort qui lui a été amené ?
Soulagé au niveau des traitements, Et puis, ben voilà, la prise en charge de l'équipe médicale, paramédicale, de l'écoute, des différentes possibilités qu'il y avait, compte tenu du cadre légal, comme l'a dit Monsieur Priaxis.
Ça a été fait en connaissance de cause. Vous en avez discuté avec votre père, avec vous, avec votre frère, avec les proches?
On en a un petit peu discuté, oui, à la maison.
C'est compliqué?
C'est compliqué parce qu'il arrivait à un moment donné avec beaucoup de douleur, où il pensait mettre fin à ses jours par lui-même. Donc c'était quand même difficile d'être rassurant et de lui expliquer que la médecine avait quand même possibilité de soulager les gens sans que sa fin de vie soit forcément affreuse. Voilà, donc c'est pas évident quand même.
Vous voulez qu'on change de position?
Oui, un peu, ouais.
Un peu plus allongé?
Oui.
Parce que là, ça fait un petit moment que vous êtes assis, peut-être,
oui.
Hein, oui. Pour les points d'appui.
Oui.
Un peu plus allongé, peut-être.
Ça va, comme ça.
Et on peut faire un bolus aussi, s'il y a besoin. Il y a de la douleur aussi? C'est des points d'appui?
C'est ça.
Et là, il est très...
Au service gastro, à partir de 20h, l'équipe de jour passe le témoin à l'équipe de nuit, une équipe qui se résume à deux personnes pour une vingtaine de lits, une aide-soignante et l'infirmière Annie Guirès.
Quelle heure il est là?
23h10.
Vous disiez que c'était une heure un peu particulière, le début de nuit?
Oui, c'est une heure... En général, c'est au moment où le service change un petit peu d'atmosphère. Et en fait, les angoisses arrivent. Et c'est des angoisses qui sont créées par le fait que ben voilà, les bruits s'arrêtent, les familles s'en vont, et l'atmosphère change petit à petit.
Vous êtes, vous, infirmière, c'est vous qui êtes là cette nuit avec les patients. Vous êtes plus proche des patients, vous avez une autre relation que le médecin?
Plus proche, je dirais pas, on a une autre relation. Avec nous, il a des soins de routine, c'est-à-dire d'une heure ci, des toilettes, des petits massages, des choses comme ça qui se font. Et dans ces moments-là, bien souvent, le patient, il baisse la garde. Il nous dira certaines choses qu'il ne dira pas au médecin. C'est pour ça qu'on doit travailler en équipe, on doit tous travailler ensemble pour que justement ce que nous, on entend, on puisse le retransmettre au médecin. Et comme le médecin, il y a des choses qu'il entend, qu'il peut nous retransmettre à nous pour qu'on comprenne certaines choses. On est vraiment une équipe et c'est le patient qui est toujours au centre. C'est lui qui doit nous mener, en fait. Nous, on fait les choses, mais c'est lui qui peut nous mener. Et c'est très important en fin de vie, ça.
Vous, est-ce que vous avez fait vos directives anticipées?
Oui. Oui.
Depuis longtemps?
Ça va faire 4 ans, puisqu'il faut que je les refasse. Donc oui, je les ai faites. Ça m'a permis de dire ce que je ne voulais pas. Et ça me permet de libérer mes enfants. Je considère que mes enfants n'ont pas à prendre une décision qui sera trop forte pour eux ou trop chargée d'émotions pour eux. Je leur ai dit... Et ils savent que je les ai écrites. Si demain je me fais renverser par un bus, je dis toujours, voilà, mes enfants sauront ce que je ne veux pas et ils pourront dire, ben voilà, il y avait ça qui avait été écrit. Et, il ne faut pas attendre d'être dans l'incapacité de le faire ou au dernier moment. Je pense que c'est quelque chose qui devrait se faire avant. Je ne veux pas que mes enfants se déchirent autour d'une décision à prendre si demain il m'arrivait quelque chose. Si je dois me retrouver paralysée, alimentée par une sonde, ne pas pouvoir communiquer, non. Enfin, c'est pas ce que je souhaite.
Mais vous avez vu aussi des patients arriver ici, j'imagine, où vous demandez, s'il vous plaît, faites-moi une piqûre, j'en peux plus, et puis vivre encore plusieurs années.
Quand vous parlez avec un patient, bien souvent, ce qu'ils ne veulent pas, c'est souffrir. Si on arrive déjà à gérer la douleur... Et à calmer la douleur, quelqu'un qui a une maladie grave comme un cancer, s'il ne souffre plus, s'il arrive à avoir la vie, une vie décente, je pense que cette demande-là, elle n'existe plus.
Le débat sur la fin de vie, il est récent ou il existait aussi il y a quelques années
Non, on n'en parlait pas. Ça n'existait pas. L'euthanasie active n'existait pas. Ou si elle existait, elle était sous le manteau, on n'en parlait pas, mais c'était pas, non. Non, tout est venu effectivement parce que tout a évolué, les soins palliatifs, les directives anticipées, la loi Leonetti, tout est arrivé un petit peu en même temps. Et je pense que autrefois, la parole du médecin était omniprésente. Enfin, le médecin, c'était le médecin qui décidait, c'était pas le patient, c'était pas les familles qui décidaient, c'était le médecin. C'était lui qui avait tout pouvoir, en fait. Et c'est vrai que là, maintenant, la parole du patient, elle est aussi importante que la parole du médecin. C'est une belle évolution.
Je m'appelle Sylvia Edeguillen et je suis aide-soignante depuis 21 ans.
C'est compliqué de travailler ici dans ce service ?
Oui, pour moi, oui, qui est une maison de retraite, oui, c'est très compliqué, même encore. Même au bout d'un an, c'est compliqué. Tout ce qui est cancer et tout ça, moi, j'étais pas confrontée, quoi. Donc, on se le prend... Moi, je me le suis pris en pleine face, ouais. Ça a été dur au départ. Même encore, c'est très, très dur. Non, on se fait pas tout ça. C'est pas...
Ça vous arrive d'en avoir des cas compliqués où on sait pas...
Oui, ça m'est arrivé, oui. Oui. Ouais.
Et on le gère comment ?
Ben, nous, on a eu la facilité en tant qu'aide-soignante, c'est vrai qu'on se met un petit peu en retrait. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est toujours difficile de voir des familles déchirées qui ne savent pas faire, comment faire, quoi. La personne est au fond d'un lit, elle est plus capable de dire ce qu'elle veut, mais on ne sait pas, ou même si on le sait, ce qu'elle veut, on n'est jamais sûr, quoi. Donc ça, c'est difficile, oui.
J'imagine que vous n'allez pas chez le psy tous les jours. Qu'est-ce qui fait ? C'est important de travailler en groupe, de pouvoir communiquer comme ça ?
Oui. Chez le psy tous les jours, non ? Non. Ben oui, c'est important, oui. L'équipe est très importante. Le médecin, toute l'équipe, c'est important, oui. De débriefer, de tout.
C'est ça qui fait qu'on tire le coup ?
Sans doute. Quand on a un cas dur et qu'on peut en discuter et qu'on peut lâcher, on peut avoir une larme qu'on n'a pas eue avec la patiente parce que voilà quoi, ils en ont assez, on va pas en plus, même si des fois c'est limite quoi, c'est là. Il y a des patients qui vous émeuvent énormément quoi. Une patiente avant que je parte en congé qui m'a vraiment fait un couple, ils m'ont ému tous les deux et c'est vrai que c'était dur quoi. Moi je suis très émotive en plus donc, hein. Ça me. C'est hyper émotive donc. Donc ça permet de... Sur le moment, tiens, on fait l'effort, et puis après, l'équipe permet de tout relâcher, ouais.
Il y a encore des tabous, des choses qui sont difficiles à exprimer autour de cette question, donc des directives anticipées de la fin de vie, de la bioéthique, tout ça.
Oui. Même chez les personnes jeunes, c'est très tabou, moi, je trouve.
Et même entre vous, mais entre le personnel soignant ?
Oui. Oui, il y a des personnes qui ne sont pas du tout... C'est vrai que c'est difficile, je reviens toujours à la maison de retraite, mais moi j'avais des collègues qui ne supportaient plus un arrêt d'alimentation. Pour elles, c'était impossible, quoi. Il fallait continuer de nourrir pour vivre, quoi. La nourriture, c'est la vie, donc il fallait... Et elles acceptaient très difficilement d'arrêter de nourrir les personnes, parce que ben, c'était fini, quoi. Enfin, il faut, à un moment donné, il faut accepter. Mais il y a des filles qui sont tant aides-soignantes que infirmières, n'importe. Il y a des personnes pour qui c'est impossible. Ouais.
Au bras de son épouse, l'ex-médecin urgentiste arrive au palais. Acquitté en juin 2014 par la cour d'assises de Pau, après 11 jours de procès, il espérait pouvoir tourner la page. Mais le parquet ayant fait appel, il doit de nouveau s'expliquer.
Il est tendu parce que prendre la place dans le box des accusés, c'est véritablement pas sa place. Et il est surtout... dans un état d'esprit d'expliquer aux jurés ce qu'il a fait et surtout qu'enfin on gomme cette image de criminel qu'on veut lui coller.
Nicolas Bonnemaison est accusé d'avoir empoisonné 7 patients âgés, incurables et en phase terminale en leur administrant une molécule qui calme l'anxiété, accélère l'endormissement et favorise le relâchement musculaire. Deux familles, deux victimes se sont constituées partie civile.
Quoi qu'on dise, les faits sont là, les crimes ont été commis. S'il y a crime, il doit y avoir condamnation.
Interception, le magazine de reportage de France Inter.
Retour dans le bureau du docteur Pierre Briaxis dans l'unité des soins palliatifs. Vous êtes revenu à plusieurs reprises sur la loi, sur le contexte légal, sur ce que demande la loi, comment vous êtes encadré. Il y a plusieurs cas emblématiques. Il y a eu celui de Vincent Humbert qui est toujours en cours. Il y a eu celui du docteur Bonne-Maison ici dans cet hôpital de Bayonne. On en parle, vous y pensez?
Nicolas Bonne-Maison a été un collègue hein, quand j'étais urgentiste entre 1994 et 1998. C'est quelqu'un que j'ai toujours apprécié, avec qui je suis en contact. Moi, j'ai personnellement été bouleversé par l'affaire, par la brutalité aussi un peu de l'émergence de l'affaire. Je pense qu'il y a eu un chamboulement collectif. Après, l'affaire, elle a suivi son cours avec le temps de la justice, qui a un temps qui est long. Hein. Je pense que sur l'établissement, on n'a pas eu l'occasion de faire vraiment un débriefing et de se questionner, en tous les cas, au-delà de la situation vraiment du médecin, de se questionner collectivement en interne. Mais je crois que ça reste quand même un sujet, avec certaines personnes, difficile à évoquer. Les patients, par contre, ou les familles en parlent peut-être plus facilement que certains professionnels de santé. Il y a quand même un certain malaise, je pense, collectif, quand même. Enfin, c'est ma perception.
Est-ce que on est au clair en France en ce moment avec la loi Claeys-Leonetti, ou est-ce que vous pensez qu'on peut encore faire évoluer, préciser les choses?
Moi, je pense que là, sur ce point-là, il y a un flou qui est maintenu. Bon, M. Leonetti a voulu rassurer tout le monde en disant que ça n'avait rien à voir avec de l'euthanasie ou de l'aide active à mourir. Et pour rassurer, il a pu dire que ce n'était ni plus ni moins qu'une anesthésie générale. Mais lors d'une anesthésie générale, on laisse la personne se réveiller dans une sédation profonde et continue. On maintient la sédation. Moi, je pense que le cadre légal est quand même plus complexe qu'il ne paraît. On est quand même, pour moi, très proche d'un droit à une certaine aide active à mourir en situation d'agonie, hein, puisque la sédation profonde et continue n'est envisagée que quand le pronostic vital est engagé à court terme. Après, ce qui est quand même particulier, et justement, hein, en regard de l'affaire de Nicolas Bonne-Maison, c'est que pour les personnes inconscientes, en tous les cas, hein, qui ont un traitement de maintien en vie, après une procédure collégiale qui débouche sur une décision d'arrêt des traitements de maintien en vie, la loi demande au médecin de mettre en place une sédation profonde et continue jusqu'au décès, sauf avis contraire de la personne dans ses directives anticipées. Bon, moi, ça fait partie un peu de mes préoccupations, parce que je voyais bien qu'on n'était quand même pas loin de la pratique de Nicolas Bonne-Maison. Quand on entend les infirmières, elles disent « je ne comprends pas, il y a une personne qui est dans le coma, donc inconsciente, qui ne présente pas de signes d'inconfort, et là, j'ai un médecin qui est en train d'administrer un traitement supplémentaire. » Et c'est ce qu'on va faire avec la nouvelle loi. Donc c'est vrai que pour nous, à Bayonne, je veux dire, en tous les cas pour moi en particulier, ça fait beaucoup écho à l'affaire de Nicolas de Bonne-Maison, et même si sur la forme, bien sûr qu'il y a un cadre maintenant légal, il y a une procédure collégiale à respecter, mais après dans ce qui est réalisé, ça fait pas beaucoup de différence par rapport à l'affaire de Nicolas Bonne-Maison.
Habitué. Ah non, je suis habitué, vous inquiétez pas.
Vous si inquiétez pas. Vous êtes mal assis ou...
Ah non, je suis habitué.
Habitué, oui, mais on peut se mettre mieux.
Non, c'est bien. Ouais. C'est bien comme ça.
Mais ça va pas durer comme ça 2 heures.
Non. À Bayonne, dans les quartiers nord, Marie Ouchabiaga reçoit des soins à domicile. Elle est atteinte d'un cancer et elle sait comment elle veut terminer son combat. C'est à quel moment que vous êtes dit, bon, je vais écrire mes directives en cas ?
J'en avais parlé déjà avec le docteur Briaxis.
Mais pourquoi? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment vous êtes dit il faut que je rédige?
Parce que là j'ai fait un petit stage dans une sur un nuage blanc où j'étais très bien. J'avais pas mal de rien. Je sais pas. Je pense qu'à 5h l'après-midi je suis partie et puis il me semblait que j'étais partie pour toujours. Mais le lendemain matin là, j'étais de nouveau là. Merde alors.
Qu'est-ce que vous disiez donc?
Qu'est-ce que vous avez lu là? Que je ne veux pas être intubée, que je ne veux pas être de gastro. Je ne veux pas de repas à mon estomac directement, ça m'horripile le plus du monde. Et que qu'on me laisse mourir parce que j'en ai suffisamment maintenant. Je ne peux pas marcher, je ne peux pas faire les choses comme tout le monde, je ne conduis plus depuis que je suis rentrée de l'hôpital là. Et puis c'est l'asiatique là, qui est tout le temps anesthésiée là. Celle-là, elle va faire des petits là.
Vous m'avez parlé de la religion, c'est important pour vous, ça compte?
Plus, du tout. Fini. Déjà, de croire à l'homme, c'est très très important, l'homme, à la créature humaine. Mais là, comment vous... Je sais pas, tout me dégoûte. Comme j'ai fait mon coma, je peux rire jusqu'au bout avec des bêtises et je voudrais que ça se termine comme ça. Et j'ai surtout demandé, parce qu'il y a une phrase qu'elle dit, qui dit vraiment ce qu'elle, la meilleure des choses, il y a une phrase qui dit « Souhaitez-vous l'administration de la mort en douceur ?» Comment ça, je ne sais plus.
Sédation longue et prolongée.
Oui, enfin, quelque chose comme ça. J'ai dit, voilà, ça m'a fait très bien. Vous mettez une petite perfusion, une petite goutte par-ci, par-là, que ça me saoule bien, mais complètement à fond, hein, que je ne revienne pas. Hein. Plus de nuages blancs, hein, c'est fini.
De la fin de vie à la bonne mort, reportage Bichente Vrignon, réalisation Michel Soulier, assisté de Stéphane Combe, mixage Jean-Philippe Jeanne. À la semaine prochaine.